BFM Business. Midi, leur H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On va parler, décidément, c'est la rentrée, l'heure des bilans. On fera le bilan d'Airbnb avec Emmanuel Maril. Ils ont sorti ce matin des chiffres encore impressionnants sur le nombre de Français qui ont été en France dans des logements Airbnb. Et puis, c'est la rentrée scolaire. On parlera de restauration collective. Est-ce qu'il y a finalement trop de viande, peut-être, pour nos chères têtes blondes? On en parlera avec Anna Notariani. Elle est présidente de Sodexo en France. Et puis, dans un instant, il est déjà en studio avec nous. On parlera d'air très On parlera de méthode. C'est lui qui va être le rapporteur de cette loi sur les retraites. Laurent Pietragesky, bonjour.
Bonjour, Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche du Nord et donc le futur rapporteur de ce projet de loi. Mais pour l'instant, c'est l'actu, toute l'actu. Julien Rizeau, bonjour Julien.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Frantz Yvelin, le PDG d'Aigle Azur, a annoncé sa démission ce matin sur BFM Business. La compagnie aérienne en proie d'une bataille d'actionnaires depuis plusieurs semaines est en redressement judiciaire. Le patron estime qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire, Laurent Mimouni.
Fatigué, triste et plein d'espoir, c'est ainsi que s'est présenté ce matin Frantz Yvelin dans le studio de BFM Business. Le désormais ex-PDG d'Aigle Azur a été progressivement lâché par ses actionnaires en raison de désaccords sur la stratégie à suivre. C'était donc, selon lui, le moment de tourner la page.
Je démissionne, j'ai fait absolument tout ce que je pouvais depuis 2 ans. On est venu me chercher pour diriger Aigle Azur. Nous avions un plan que nous avons présenté. Ce plan permettait de sauver plus de 90% des emplois de la compagnie, permettait également de pérenniser son activité. Certains syndicats n'en ont pas voulu. Monsieur Oua a voulu faire son putsch. Écoutez, à un moment, on ne peut pas se battre contre tout le monde.
La compagnie, avec ses 1200 salariés et ses 10 000 créneaux de décollage et d'atterrissage à Orly, attise désormais les convoitises. Certaines compagnies low-cost regarderaient le dossier. On parle aussi de Lionel Guérin, l'ancien patron de Hop, ou même de Air France qui serait intéressé. Les repreneurs n'ont que quelques jours pour se faire connaître.
Christine Lagarde auditionnée en ce moment par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. La future présidente de la BCE estime qu'une politique monétaire très accommodante pour une période prolongée est nécessaire de la part de la Banque Centrale Européenne. Elle ajoute toutefois qu'il faut avoir conscience des effets négatifs des politiques non conventionnelles. Nouveau bras de fer attendu cet après-midi au Parlement britannique. Boris Johnson a essuyé un cinglant revers hier à la Chambre des communes en perdant la majorité. Les députés, dont 21 conservateurs frondeurs, ont approuvé une motion leur permettant de prendre le contrôle de l'agenda parlementaire. Ils souhaitent bloquer un Brexit sans accord, reportant la sortie de l'Union européenne prévue pour le 31 octobre. Le Premier ministre contre-attaque et menace le Parlement d'élections législatives anticipées. De son côté, la Cour écossaise vient de juger que la suspension du Parlement britannique par Boris Johnson n'est pas contraire à la loi. La bourse de Hong Kong a fini en hausse de près de 4%. Cela fait suite à l'annonce par des médias de l'ex-colonie britannique que l'exécutif envisagerait de retirer définitivement le texte sur les extraditions. Depuis 3 mois, Hong Kong est le théâtre d'immenses manifestations contre l'ingérence du pouvoir chinois. On finit avec le CAC qui est en hausse de plus de 1% à plus de 5520 points. Et puis l'euro-dollar en légère hausse de 0,3%. 1 euro s'échange, 1,10 $.
Question du jour, quand est-ce qu'on aura une loi sur les retraites? On voit ça tout de suite avec notre invité Laurent Pietragesky.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Laurent Pietragesky, bonjour.
Bonjour.
Rebonjour. Député de La République En Marche du Nord et alors futur rapporteur de la loi sur les projets sur les retraites. Quand est-ce qu'on va enlever le mot futur? Quand est-ce que vous serez rapporteur de ce projet de loi?
Quand le projet de loi sera déposé sur le bureau de l'Assemblée.
Ça, je vous remercie. Non, mais ça je sais bien. Et donc, vous voyez bien ma question, c'est qu'il y a un calendrier qui est un peu flou, donc c'est pour ça que je vous pose la question.
Mais vous avez compris ma réponse aussi, je vais essayer de la détailler un peu, je crois que c'était ça l'objet de votre questionnement. Bon, le Premier ministre a parlé de quelques mois. Jean-Paul Delevoye, qui s'est exprimé hier dans La Voix du Nord, a aussi mis un cadrage là-dessus en parlant du premier trimestre 2020. À plusieurs reprises, je suis intervenu pour dire que le temps de la concertation qui s'ouvre, cette concertation, consultation citoyenne qui s'ouvre avec notamment ces 2 journées de jeudi et de vendredi où le gouvernement va recevoir les partenaires sociaux, c'est un temps qu'on ne peut pas à l'avance délimiter. Nous voulons avoir une concertation de qualité, donnons-nous le temps. C'est une transformation profonde. C'est un sujet de société. Les retraites, nous n'allons pas nous fixer en disant, écoutez, nous allons faire ça en 2 mois. nous prenons
non, mais
le
on
temps.
Voit, vous écoutez comme moi, parce que vous, vous êtes le Parlement, hein, quand même. J'espère que vous aurez un rôle à jouer. Enfin, vous allez nous dire
bien
ça
sûr,
dans un instant. J'espère qu'en tout cas, vous entendez jouer un rôle. On voit qu'il y a quelques frondeurs hein, au sein de la République En Marche. Et puis, il y a le gouvernement. Et puis, presque, j'ai envie de dire, il y a le président hein, aussi, qui complique toujours un peu la donne. Est-ce qu'il y aura un an de concertation, alors qu'il y a déjà eu 18 mois de concertation avec Jean-Pierre Delevoye, ou le fait que Jean-Paul Delevoye, pardon, rentre au gouvernement, on va peut-être s'appuyer sur son rapport et on n'a peut-être pas besoin d'un an de concertation.
Bon, vous soulignez un point important. Nous avons aujourd'hui un rapport.
Bah oui.
Et donc, la différence qu'il y a entre les concertations qui sont menées depuis 18 mois, et vous les rappelez, elles ont été fructueuses, l'ensemble des partenaires sociaux
oui, des ont reconnu ici, sont plutôt, absolument.
La qualité des échanges qu'ils ont eus avec Jean-Paul Delevoye. Eh bien, ces éléments-là, aujourd'hui, ils sont regroupés dans un rapport. Ce rapport, c'est ça la base de discussion. Le président de la République a rappelé fin août que tout était sur la table, à la fois le contenu de ce rapport, mais peut-être d'autres idées qui peuvent remonter à la fois de nos concitoyens, mais aussi des partenaires sociaux. C'est ça l'objet de
oui,
ce deuxième
mais temps. Reconnaissez, ça peut être bizarre de repartir pour une concertation alors qu'il y a déjà eu 18 mois, quoi. Alors là, ce sera les Français, mais vous, vous êtes favorable en tant que député, vous êtes à, je sais pas, à combien de temps de concertation, entre guillemets.
Donc, je suis d'autant plus favorable en tant que député parce que les députés de La République En Marche, et d'ailleurs de la majorité présidentielle, puisqu'il y a également des parlementaires MoDem et des parlementaires Agir qui sont dans cette dynamique d'ambassadeurs du projet de loi retraite, nous avons des parlementaires qui sont des ambassadeurs de ce projet de loi. Et nous avions, avant que d'ailleurs les propositions en soient faites par le président de la République et le Premier ministre, déjà prévu un temps de concertation avec les Français dans nos circonscriptions. On a un objectif, nous les parlementaires, vous nous parliez de notre rôle tout à l'heure, en amont de ce projet de loi, nous avons un rôle d'écoute. Et ce rôle d'écoute, il va être réalisé par des ateliers citoyens qui vont avoir lieu sur l'automne, septembre, octobre, novembre, et aussi alimenter la grande concertation que vient d'évoquer le Premier ministre.
Donc, on est déjà là, vous êtes en train de préciser le calendrier, quand même, vous pensez qu'on pourrait avoir un projet de loi. C'est ce que dit le Premier ministre, hein, du reste. Premier semestre 2020 ?
Oui, ça paraît tout à fait cohérent. Effectivement, vous savez que quand on regarde les choses, nous avons quelques semaines, quelques mois de concertation, consultation. Bien, même si nous imaginions que tout cela nous emmène jusqu'à la fin de l'année, il y a ensuite un temps qui est nécessaire pour rédiger le projet de loi. Bien sûr, il y a des aspects du projet de loi sur lesquels nous sommes clairs. L'objectif, la cible, ce régime universel, par répartition, par point, est connu.
Compliqué,
nous l'avons contracté avec les Français dans le contrat avec la nation. Il y a des éléments qui peuvent, bien sûr, déjà être proposés dans la loi. Mais il y a plein de choses qui sont à négocier, à concerter, notamment les modalités qu'il y a à l'intérieur de ce projet de loi. Et donc, il y aura le temps pour écrire ce projet de loi. Ensuite, vous le savez, il faut le passer au Conseil des ministres, il faut le transmettre au Conseil d'État, ça prend un certain temps.
Avant l'été, vous pensez?
Bon, j'espère que ça sera fait avant l'été, oui,
oui
bien sûr.
Oui, oui, non, mais on peut se poser la question lorsqu'on écoute Gérald Darmanin. Tiens, du reste, c'est assez drôle parce que Gérald Darmanin, il est du Nord, bien sûr, et vous êtes du Nord, et puis Jean-Paul Delevoye est aussi du Nord. C'est pour ça qu'on vous a nommé rapporteur ou pas la remplétrage. Non, mais on peut se poser
le
la
Nord
question.
Le Nord est une terre de travail, ça.
Oui, oui non,
savez,
mais c'est pour ça que je sais plus sérieusement.
Les communautés qui constituent cette région des Hauts-de-France portent haut la valeur travail, mais je crois que c'est vrai aussi dans d'autres régions. Il n'y a pas d'exclusive, mais ça a du sens, bien sûr, chez nous. Maintenant, le clin d'œil s'arrête là.
Oui. Jean-Paul Delevoye, est-ce qu'il a été nommé donc haut commissaire, et pas ministre, hein, haut commissaire auprès d'Agnès Buzyn? Dans un premier temps, il devait être nommé auprès du Premier ministre, puis finalement, Agnès Buzyn, décidément, aujourd'hui, on se mélange dans les prénoms. Agnès Buzyn, que je recevais jeudi dernier, m'a dit, moi, solidarité, il y a solidarité, c'est les retraites. J'espère porter ce dossier, je veux le porter. On a trouvé un bon pis-aller, en fait, au commissaire, c'est un côté un peu disruptif dans un gouvernement, enfin, il y a déjà eu Martin Hirsch, et puis là, il dépend quand même d'Agnès Buzyn.
Oui, on est dans une cohérence, il y a une forme de continuité.
Cohérence, je ne dirais pas jusque-là. Si.
Dans tout cela. Si, je pense qu'il faut voir, je pense que l'idée, c'est pas forcément de passer du temps sur une sorte de niveau hiérarchique où on placerait le haut commissaire. Jean-Paul Delevoye est clairement identifié comme étant l'interlocuteur sur ce dossier. Et d'ailleurs, moi, je suis très heureux qu'il rejoigne le gouvernement et qu'il soit dans l'équipe d'Agnès Buzyn. J'en suis très heureux parce que je crois que ça va nous donner aussi une forme de cohérence dans les prises de position. Nous allons avoir un haut commissaire qui va être au gouvernement et pour lequel je sais que les partenaires sociaux sont attentifs à la parole qui sera donnée au nom du gouvernement.
Oui, c'est important parce que les partenaires sociaux, ils ont tous ici même, encore une fois, ils ont vraiment plébiscité la méthode, pour le coup, on parle beaucoup de méthode en ce moment, de Jean-Paul Delevoye. Donc ça, c'est un point important. Derrière vos propos, c'est une manière de dire, au moins, il n'y aura plus qu'une voix au gouvernement sur les retraites, Jean-Paul Delevoye.
Il n'y a rien derrière mes propos, si ce n'est de la simplicité.
Ce que je souhaite,
c'est que nous soyons le plus audible possible, le plus compréhensible possible. Parce que ce qui est important pour créer ce consensus, cette dynamique collective autour de ce projet de société, autour de cette transformation de ce socle de solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle au sein de notre pays. Nous penchons sur un dispositif qui est essentiel à la cohésion de notre pays et qui fonctionne depuis plus de 75 ans. Oui, je suis très heureux d'avoir un homme d'expérience comme Jean-Paul Delevoye dans l'équipe d'Agnès Buzyn pour porter cela et pour dire effectivement les choses.
Laurent Pietraszewski, est-ce que vous dites quand même que est-ce que on a l'impression qu'on est en train de revenir sur le rapport de Jean-Paul Delevoye avec les petites phrases du président? Du coup, il y a certains qui s'interrogent en disant mais finalement c'est une retraite, pourquoi faire? De tous les partenaires sociaux, Geoffroy Roux-de-Bézieux, Philbert Dayan lui-même, Yves Verrier, vous voyez, il y en a beaucoup qui se posent cette question-là.
Oui, je pense qu'il faut qu'on distingue
vous entendez,
deux choses.
Oui.
Moi, j'entends aussi, quand je suis à Armentières, quand je vais à Villeneuve-d'Ascq voir le LOSC jouer, lorsque je rencontre des gens sur les marchés, à Lomme et à Lille, j'entends aussi que le niveau de connexion de nos concitoyens avec ce projet de loi est encore à construire. Certes, les partenaires sociaux, ces corps intermédiaires dont on parle souvent, je crois qu'effectivement, ils sont très au point là-dessus. Et d'ailleurs, moi-même qui siège au comité d'orientation des retraites, au conseil d'orientation des retraites, je sais bien qu'il y a une expertise chez les partenaires sociaux. Mais je crois que les Français sont en train de rencontrer ce projet et qu'ils ont besoin eux aussi de partager et ils ont besoin eux aussi, au-delà des corps intermédiaires qui ont toute leur place, mais eux aussi de remonter un certain nombre de choses.
Je suis d'accord. La seule chose, c'est qu'on se demande au départ, on était sur une retraite de simplification, avec 42 régimes, on passe à un régime. Puis, forcément, c'est un dossier tellement compliqué, c'est pas vous, je vais l'expliquer, qu'on se retrouve un peu dans des... Enfin, on voit bien que derrière, il y a d'autres choses que ça va entraîner, notamment sur... C'est l'État dorénavant qui va fixer le niveau des retraites des Français. Ce sera plus les partenaires sociaux. C'est quand même... Je veux dire, c'est une révolution sociale en France.
Alors, je crois que là, vous pointez un sujet qui fait partie des sujets qui sont sur la table, qui est le sujet de la gouvernance.
Oui.
Donc, vous êtes déjà dans le dur du dossier. Et vous avez raison.
Oui, mais ça va plus que la gouvernance. C'est quand même le niveau des retraites derrière. D'accord, il y a la gouvernance, mais c'est le niveau des retraites qui sera fixé par le gouvernement, les gouvernements à venir.
Alors, je pense que vous allez un peu vite en besogne quand vous résumez le sujet à cela. Ce que vous voulez pointer, c'est, à mon avis, c'est deux choses, si j'ai bien compris votre propos. Un, il y a besoin d'une cohérence économique dans le temps. Nous ne pouvons pas avoir durablement un système de retraite qui est déficitaire. Et donc, on ne peut pas demander aux générations qui suivent de porter deux poids.
Ça, c'est la philosophie.
Le poids de la cotisation pour la pension. Oui. Deux, le poids du déficit qu'on leur laisse. Bon, je crois que ça, tout le monde l'entend et je crois qu'on c'est quelque chose qui est bien passé au niveau de nos concitoyens.
Oui.
Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, au contraire, les propositions qui sont dans le rapport Delevoye, mais qui sont à discuter, sont des propositions. Moi, j'entends plutôt des propositions contraires à votre propos. On nous dit, aujourd'hui, la situation actuelle, c'est quoi? Les cotisations que vous incrémentez, que vous mettez dans votre compte, suivent l'évolution des prix depuis la réforme de 1993. Les propositions du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, c'est que vos points, eux, suivent l'évolution des salaires. Ouais. Vous voyez bien que on a, entre le système actuel et une proposition du futur système, déjà des écarts qui montrent que c'est pas le gouvernement qui va fixer les choses, que c'est
la valeur du point. Mais la valeur du point, c'est
l'activité professionnelle. Oui. Et vous savez que les salaires progressent en moyenne en France, le salaire moyen par tête progresse bien plus vite que l'inflation. Et donc, ça veut dire que c'est bien plus intéressant.
Oui, mais le nombre de points. Le nombre de points.
Le nombre de points, le commissaire a fait des propositions. Mmh. Il a fait des propositions au regard de la situation économique telle qu'on peut la projeter. Alors, encore une fois, le Conseil d'orientation des retraites, quand il fait des projections, puisque le haut commissaire les utilise, bien, on les fait à partir d'informations dont on dispose. On est bien d'accord que ces informations peuvent évoluer. D'ailleurs, les partenaires sociaux ont déjà dit qu'ils estimaient peut-être que sur certains plans, les propositions, les estimations du Conseil d'orientation des retraites pouvaient être discutées.
D'accord.
On va voir ce qu'ils en disent.
Ouais. Puisque vous êtes membre du corps, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité qu'on soit à l'équilibre en 2025?
Très franchement, moi je trouve que ce que nous a présenté
ça dépend beaucoup de l'activité économique hein.
du corps oui. me paraît cohérent. Je n'ai rien vu de là qui c'est des hypothèses moyennes et alors encore une fois quand on parle d'un déficit autour de 10 milliards entre 0,3 et 0,6 du produit intérieur brut, on est honnêtement sur une projection moyenne, on n'est pas dans une projection catastrophique, on n'a pas pris les hypothèses les plus pointues. Il reste quand même que ces hypothèses, elles étaient faites tenant compte d'une réduction assez significative du nombre d'emplois publics. Or, on sait qu'il y a un ajustement sur ce sujet, donc il peut y avoir peut-être un espace de discussion là-dessus.
D'accord. Un espace de discussion, d'accord, c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être que finalement, on aura une régulation financière plus rapide, enfin, plus rapide ou moins lourde que prévu.
Je parle là de la prévision du corps. Je ne sais pas les conséquences qu'il peut y en avoir. Ouais, le débat a été lancé autour de la prévision
du corps. Il y a tout un débat en conclusion et rapidement, si vous le permettez, Laurent Petrajewski, c'est de dire sur la réforme de la Touraine, qui normalement donc c'est de passer à 43 années de cotisation. Donc normalement c'est 2035. On dit qu'on peut le rapporter. Madame Macron fait une petite phrase 2025, voire un petit peu avant. Vous avez une position là-dessus ou pas? Il ne faut pas aller trop vite. Il faut accélérer les choses puisqu'on est dans la réforme.
Bon, la réforme Touraine, elle est sur 2014, elle concerne les générations, on terminera 43 années de cotisation pour une carrière dite pleine pour les générations qui sont nées 73 et après. Elle avait le mérite d'exister en 2014. Effectivement, se pose la question du fait que lorsque nous allons basculer en 2025, elle n'aura pas donné son plein rendement. C'est un sujet qui est aussi sur la table. Je crois que ce n'est pas le sujet principal. C'est un des sujets qui est sur la table.
Oui. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais écoutez, j'en pense que...
Vous n'en pensez pas à grand-chose qu'on
n'instant
pas.
Mais ouais. Je pense que la concertation s'ouvre.
D'accord.
Donc, moi, je veux bien vous donner une lecture qui est, si cette réforme a été faite, c'est sans doute pour des bonnes raisons. Donc, ça veut dire que lorsqu'on cherche une cohérence budgétaire, il faut pouvoir regarder l'ensemble des entrants.
Merci beaucoup, Laurent Pietraszewski, donc, qui est le futur rapporteur, peut-être d'ici quelques mois, le futur rapporteur de cette loi sur les retraites. Dans un instant, c'est Emmanuel Maril, le patron d'Airbnb pour la France. France qui est décidément le deuxième et de loin marché pour la plateforme. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Je vous le disais, c'est un peu l'heure des bilans, le bilan de l'été, notamment pour Airbnb. Emmanuel Maril, bonjour.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être là, patron d'Airbnb pour la France. Et c'est un sacré patron parce que la France, c'est le deuxième marché, je le disais, deuxième marché pour Airbnb et de très loin. Et là, vous avez délivré ce matin des chiffres impressionnants. Les Français ont publicité la France.
Oui, alors c'est pas nouveau, ils le faisaient déjà depuis un an ou deux pour les vacances d'été, mais là cette année c'est encore une augmentation assez sensible. On voit qu'il y a 8,5 millions de Français qui ont utilisé Airbnb pour partir en vacances. Ce qui est un chiffre assez révélateur du succès de la plateforme qui s'inscrit vraiment dans le quotidien des Français aujourd'hui pour leurs vacances d'été et même les vacances un peu plus courtes.
Quand vous dites 8,5 millions, c'est vous comptez tous les éléments de la famille ou vous comptez une personne par réservation?
Non, c'est tout le monde.
C'est d'accord, ok. Non,
voyager à 4, c'est 4 Français qui voyagent.
Oui. Et par rapport à l'année dernière, c'est combien vous avez dit en plus?
Alors, on était sur une augmentation assez sensible puisqu'on était autour de 6,5 millions l'année dernière à peu près.
Comment vous expliquez ça en fait? Donc ça fait 2 millions quoi? C'est le mouvement des Gilets jaunes? Une question de pouvoir d'achat, une question de...
Il y a toujours plusieurs facteurs qui expliquent ça. Je pense qu'il y a une problématique de pouvoir d'achat. Il y a aussi le fait que ça fait quand même maintenant plusieurs années qu'on est en présent en France. Ça va être depuis 2011, donc les gens se sont habitués à cela. Qu'il y a beaucoup de familles qui voyagent. Les familles aiment bien louer des maisons, plusieurs chambres, etc. Et puis que notre offre s'est développée. Et finalement, on est sur un marché d'offres. Donc si notre offre se développe, elle va créer un appel d'air. Et donc de plus en plus de voyageurs vont l'utiliser. Et si on ajoute au-dessus de cela le bouche-à-oreille positif, des gens qui ont voyagé l'année dernière et qui sont revenus en disant c'était des vacances assez sympas, assez agréables, je pense qu'on peut expliquer une grande partie de cet engouement cet été.
Les régions les plus plébiscitées, j'ai envie de dire forcément le Midi, l'Aquitaine...
Les régions classiques, oui, vous avez raison, la Côte d'Azur, la Nouvelle-Aquitaine, mais ce que je trouve intéressant, c'est le rural, le monde rural, la campagne. La campagne se développe énormément.
Oui.
Et le monde, oui, c'est vrai, la mise au vert. Les Français ont envie de se mettre au vert. Et il y a une autre tendance de fond aussi, qui est vraiment ces Français qui voyagent dans leur propre région. Il y a 1 million de Français sur les 8 millions et demi qui ont voyagé dans leur propre région. Même pas, pas qu'en France. Hein.
Ouais.
Autour de chez eux, à 1h30 de chez eux maximum.
Incroyable.
Ouais, mais alors je pense que c'est aussi une tendance de fond. Les gens n'ont pas forcément, il y a quelques années, le voyage c'était forcément une destination tropicale ou exotique quand on avait les moyens. Aujourd'hui, des gens qui ont encore les moyens se disent, maintenant finalement, la micro-aventure pas loin de chez moi, c'est aussi un dépaysement assez fort et on va essayer d'aller chercher ça.
La durée moyenne d'un séjour, c'est quoi?
On est autour de 4 nuits à peu près.
4 nuitées, oui. Et le prix moyen, parce que justement, vous avez donné les prix, je ne vais pas les donner, mais
il est très variable d'une région à l'autre.
Oui, bien sûr. Mais...
Si on prend, en France, on est autour de 80 euros, entre 80 et 90 euros à peu près, par nuit.
Oui, ce qui est quand même une somme importante.
Oui, mais c'est pour plusieurs personnes, parce que vous pouvez avoir une, deux, trois, quatre chambres, en fait. Donc, c'est vraiment un prix moyen sur tous les biens qui sont mis à disposition des voyageurs.
Là, on voit bien, Emmanuel Maril, que ça commence à... Vous êtes victime de votre succès, ou en tous les cas, vous êtes en train de... C'est que les hôteliers, bon, ça râlait déjà depuis quelques temps, mais là, vous êtes venu vraiment un challenger... sur le même plan d'égalité que les, y compris en province, que les hôteliers.
Il y a un engouement pour Airbnb, c'est évident, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une baisse de l'activité hôtelière.
Si, par exemple, en Corse, c'était très très notable.
Mais si on prend,
vous parliez de la Corse si à titre personnel.
Oui, parce que j'étais en Corse cet été. Ouais. Mais si on prend globalement la France et les résultats depuis début 2019, quand on prend la province, par exemple, cet été, les résultats sont très bons. Si on prend des régions comme la Nouvelle-Aquitaine ou même l'Île-de-France, on voit que le premier semestre en Île-de-France a été, avec 17,3 millions d'arrivées voyageurs, une année vraiment record.
Oui, mais l'été n'a pas été si bon que ça dans des régions. Alors peut-être qu'il y avait des abus, que du coup vous avez challengé un peu les hôteliers.
Il y a toujours des rééquilibres en fait qui s'opèrent entre les régions. On voit des régions qui se développent fortement. Je pense à la Bretagne par exemple, la Charente-Maritime sont des régions qui se développent fortement, pas que pour Airbnb. Et il y en a d'autres qui probablement, c'est comme ça, c'est des vases un peu communicants, mais globalement, le tourisme en France se développe et que ce soit la location saisonnière comme nous, l'hôtellerie ou le camping, le plein air, se développe aussi globalement assez fortement en 2019 et on voit même depuis 2018 une croissance assez significative.
Est-ce que vous diriez maintenant, on viendra peut-être sur la Paris, enfin là il y a une logique aussi financière un petit peu différente, enfin il y a partout une logique financière, mais est-ce que vous diriez que maintenant vous êtes arrivé à un marché de maturité et que vous êtes complètement rentré dans les mœurs?
À partir du moment où on voit que nos utilisateurs, les gens qui vont utiliser Airbnb pour voyager ou pour devenir hébergeur, couvrent vraiment toutes les franges de la population, vraiment de 25 ans à 75 ans, je pense que oui. On peut dire qu'on est clairement rentré dans le quotidien de tous les Français. Les familles, les étudiants, les couples jeunes, les couples plus âgés, les seniors, les retraités, etc. Oui, on est clairement rentré dans le quotidien des Français. Mais est-ce qu'on est arrivé à maturité, c'est une autre question. Je pense qu'il y a encore des voies de développement. Je pense vraiment à la campagne, le rural, encore une fois, où là, il y a une marge de progression qui est très forte encore pour nous. Là où, par exemple, Paris, Bordeaux, Nice sont des villes où on arrive certainement à des niveaux assez élevés aujourd'hui de maturité, mais on est présent à Paris depuis 2011.
Oui, mais bon, là, ça pose. Là, on a dépassé la maturité, peut-être, justement. Mais juste, donnez-moi, moi, j'aime bien les exemples à chaque fois de vous en donner. L'exemple le lieu le plus insolite et qui a été le plus sollicité.
Cet été?
Oui.
Alors, je ne l'ai pas en tête comme ça, mais j'avais. L'été dernier, c'était une petite maison à la Trinité-sur-Mer, par exemple, qui avait été le plus. Commenté positivement par les voyageurs.
Ouais. Alors, si on revient notamment sur la capitale, sur Paris, où vous êtes venu un tel phénomène qu'il y a même des quartiers entiers, je veux dire, où il n'y a plus que des Airbnb. Je sais que vous réfutez un tout petit peu cette problématique-là, mais enfin, on l'observe quand même. Le prix du mètre carré à Paris, là, il dépasse même les 10 000 euros du mètre carré, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent, en fait, pour faire du Airbnb.
Ça, c'est... Vous l'avez dit vous-même, oui, je le réfute. Je pense que c'est vraiment un fantasme qui a été utilisé et qu'on voit, qu'on lit beaucoup.
Ce que disent les politiques, ce que dit la mairie de Paris, peut observer lorsqu'on habite dans le cœur de la capitale ou dans le 11e, 12e arrondissement. Quoi.
Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas en campagne. Je regarde factuellement ce qui se passe.
Oui, mais vous avez forcément, logiquement, tendance un peu, je veux dire, à calmer le jeu.
Non, parce que ce n'est pas dans mon intérêt. Mon intérêt à moi, c'est de faire en sorte que Airbnb, la marque, soit perçue par les Parisiens, non pas comme un moyen de voyager, mais aussi comme un moyen de gagner de l'argent.
Oui.
Une marque qui crée du pouvoir d'achat.
Sûr, oui.
Et donc, en réalité, quand on regarde...
Mais qui participe peut-être à la hausse des prix de l'immobilier à Paris. Hein.
Mais quand on est sur des résidences principales, l'immense majorité des biens qui sont en location à Paris sont des résidences principales, qui sont louées une trentaine de nuits par an, à peu près. Il n'y a aucune façon de constater que cette façon de louer, sa résidence principale, va avoir un impact sur le prix. D'ailleurs, ça n'aura pas non plus d'impact sur le fait qu'on puisse dire que ça retire des logements à la location longue durée. Je pense qu'il faut vraiment
Regardez les étudiants, enfin, c'est ce qu'ils vous disent tous. Hein. Enfin, alors après, il n'y a pas forcément des statistiques, l'INSEE ne s'est pas encore branché dessus. Mais je veux dire, les étudiants, ils n'arrivent pas à trouver un logement à Paris, parce que les gens maintenant préfèrent du Airbnb.
Mais nous, on a, depuis 2016, il y a eu beaucoup de réglementations qui ont été mises en place. Les 120 jours, le changement d'usage, etc. Qu'on a fait respecter. Nous, et pas que nous, toutes les plateformes. On a bloqué à 120 jours. Honnêtement, la fin de la récré a été, entre guillemets, sifflée il y a déjà longtemps par le gouvernement et par les politiques sur ce sujet-là. Ça a envoyé un signal très très fort aux Parisiens, c'est si vous êtes hors la loi et que vous avez l'intention de faire une activité commerciale avec quelque chose qui ne peut pas l'être, un appartement qui n'a pas fait de changement d'usage, vous ne pouvez pas le faire. Je pense que le message a été absolument compris, parfaitement. D'ailleurs, nous, on observe aujourd'hui que les gens qui mettent leur logement à Paris sur Airbnb sont des gens qui louent un peu moins souvent. C'est vraiment de l'occasionnel avec des résidences principales. Je le redis, il ne faut pas céder à la tentation du fantasme parce qu'on entend de ci, de là qu'il y aurait ça. Mais je pense que pour les étudiants, Airbnb est une solution. C'est ceux qui en ont plus besoin de pouvoir louer ou sous-louer leur appartement pour gagner un peu d'argent.
Il faut leur expliquer, parce que c'est pas... Eux, ils utilisent souvent Airbnb, mais pour Paris, c'est pas évident. Hein.
Pour voyager, mais l'âge moyen des hôtes à Paris est inférieur à 35 ans. Donc on se rend bien compte, et le propriétaire n'a pas forcément 35 ans, donc il y a beaucoup de locataires. Les gens qui louent aujourd'hui à Paris, ça fait pas... c'est évidemment leur poste de dépense le plus élevé, leur propriété.
Tiens, est-ce que c'est un fantasme de dire, selon nos confrères de Challenge, les impôts que vous avez payés en 2018, alors qu'on voit bien que vous cartonnez, vous-même vous le dites, c'était de 150 000 euros, de l'ordre de 150 000 euros.
C'est un chiffre que je ne commande pas, qu'on n'a pas l'habitude de commenter.
Oui, mais enfin là, ça vaut le coup de commenter quand même.
Parce que c'est un chiffre qui est pris, j'imagine, hors contexte. Je n'ai même pas l'origine exacte de ce chiffre-là. Et surtout, c'est un chiffre qui...
Et c'est moins qu'en 2017. C'est ça qui, en plus, est étonnant.
Chiffre que je ne commentais pas non plus en 2017 ou en 2018. Ouais. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de voir à quel point Airbnb est plutôt une plateforme de pouvoir d'achat. C'est une plateforme
on est complètement d'accord avec Emmanuel Marie. Ouais, ce que quand même sur les, parce qu'on va parler de la taxe GAFA, on va les taxes sur les numériques, parce que
évidemment c'est un sujet. C'est un excellent exemple parce qu'on
a énormément parlé. Quand on voit ce chiffre-là, mais est-ce qu'il est complètement faux ou est-ce qu'il est ou no comment? Est-ce qu'il est faux?
Il est no comment. Vous l'avez dit vous-même. Mais je pense que vous avez un bon le point sur la taxe GAFA est un point important parce qu'on en a parlé à Biarritz.
C'est lié à ça, justement. C'est
toujours un point qui est assez intéressant. Moi, c'est pas moi qui définis les règles fiscales en France, même en Europe.
Vous êtes le patron de France, oui.
Voilà, moi, je ne définis pas les règles. On essaie de les comprendre et on essaie on gère cela. Si les règles changent, je pense à la taxe GAFA parce que c'était la question qui allait suivre. Si les règles changent, nous changerons. Parce que nous avons toujours.
Mais vous comprenez ce besoin de justice fiscale?
Je comprends complètement qu'il y a un besoin de réformer la fiscalité en 2019, au moment où l'évolution du secteur digital est aussi forte. Bien sûr que je le comprends, mais c'est probablement une évolution qui doit se faire au niveau mondial, de manière un peu concertée. Mais en l'occurrence, avec la France qui prend les devants sur ce sujet-là, moi, je n'ai pas été en opposition avec ça. Et je pense que, encore une fois, les règles du jeu changent, je change.
Merci, et vous appliquerez. C'est ce que vous avez
dit. Et on appliquera, évidemment.
Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Maril. Merci, donc, cartonne pour Airbnb. C'est vrai que c'est devenu un véritable phénomène de société. Dans un instant, on parlera de restauration collective, de rentrée, là aussi. La cantine, quel menu? On en parlera avec la patronne de Sodexo France, Anna Notariani. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
On a un petit peu débordé avec Emmanuel Maril. Anna Notariani, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la patronne de Sodexo France. On va parler de la cantine, restauration collective, un peu toutes ces tendances véganes. Est-ce que ça rentre dans les cantines? On verra ça dans un instant. Mais pour l'instant, c'est Julien Rizzo qui nous apporte l'actu.
Nouveau bras de fer attendu cet après-midi au Parlement britannique. Les députés ont pris le contrôle de l'agenda parlementaire. Boris Johnson contre-attaque et menace le Parlement d'élections anticipées. On retrouve tout de suite Delphine Liu à Londres pour BFM Business. Delphine, bonjour. Les députés vont tenter d'empêcher un Brexit sans accord le 31 octobre.
Oui, c'est le deuxième acte de la prise de contrôle du front anti-no-deal. Ils vont effectivement donc tenter tout à l'heure de légiférer afin de contraindre Boris Johnson d'aller demander un nouveau report du Brexit à Bruxelles lors du prochain sommet européen. L'objectif, c'est bien sûr d'éviter une sortie brutale de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Alors si ce projet de loi passe en fin de journée, Boris Johnson a à son tour annoncé qu'il déposerait une motion pour pouvoir organiser des élections législatives anticipées, probablement le 15 octobre prochain. C'est le peuple britannique qui tranchera, a-t-il déclaré. Mais attention, le gouvernement a besoin de 2/3 des voix à la Chambre des communes pour que cette motion passe. Or, les travaillistes dont il a besoin réclament que ce projet de loi passe complètement, c'est-à-dire non seulement à la Chambre des communes tout à l'heure, mais également à la Chambre des Lords demain. Pas question de danser au rythme imposé par Boris Johnson, a déclaré tout à l'heure Jeremy Corbyn, le leader travailliste. Boris Johnson qui pourrait donc subir de nouveaux revers aujourd'hui au Parlement après sa difficile journée d'hier.
Merci Delphine Liu en direct de Londres pour BFM Business avec Eileen Dany. Et puis de son côté, la Cour écossaise vient de juger que la suspension du Parlement britannique par Boris Johnson n'est pas contraire à la loi. Christine Lagarde auditionnée en ce moment par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. La future présidente de la BCE estime qu'une politique monétaire très accommodante pour une période prolongée est nécessaire de la part de la Banque Centrale Européenne. Elle ajoute toutefois qu'il faut avoir conscience des effets négatifs des politiques non conventionnelles. Franz Yvelin, le PDG d'Aiglazur, a annoncé sa démission ce matin sur BFM Business. Il estime être allé au bout de ce qu'il pouvait faire. La compagnie aérienne en proie d'une bataille d'actionnaires depuis plusieurs semaine est en redressement judiciaire. Les repreneurs potentiels ont jusqu'au 9 septembre pour se manifester. Enfin, le CAC 40 à la mi-journée, il est en hausse de plus de 1% à 5522 points. Et puis pour l'euro-dollar, l'euro-dollar en légère hausse de 0,4%. 1 euro s'échange, 1,10 $.
Merci Julien. Julien Rizzo, dans un instant, c'est la patronne de Sodexo France qui est notre invitée sur BFM Business.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
C'est l'heure, on va parler de déjeuner, de petit déjeuner avec la présidente de Sodexo pour la France, Anna Notoriani. Merci d'être avec nous. Merci. On va parler de, ça y est, c'est la rentrée des classes. Ça y est, c'est fait. Vous me direz comment ça s'est passé. Vous êtes aussi la restauration, l'enseignement supérieur et puis évidemment dans les entreprises. Il y a beaucoup de pression sur vous pour changer les menus, pour avoir des menus qui soient conformes à des religions, pour avoir des menus qui soient plus végétariens. On dit qu'on mange trop de viande dans les cantines. Il y en a certains qui disent qu'il faut même qu'ils soient véganes. On voit bien qu'il y a chacun choisi un peu ses différents régimes. Comment est-ce que vous réagissez en tant que patronne de Sodexo, qui est le leader quand même de la restauration collective? Comment est-ce que vous faites?
En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la loi évolue, mais on n'a pas attendu que la loi évolue. La loi Egalim, qui fixe des standards dans le domaine des produits de label, des produits qualité, etc. On n'a pas attendu la loi pour se mettre en mouvement. Ça fait 5 ans, plus de 5 ans, qu'on propose toutes les semaines un repas végétarien. Mais ce que je voudrais dire avant tout, c'est que notre métier, il faut comprendre ce que c'est que notre métier de la restauration sociale. Notre métier, c'est 3 dimensions. La première, c'est la cuisine, parce que nous sommes avant tout des cuisiniers. La deuxième dimension, c'est l'éducation nutritionnelle, parce que nous avons un rôle très important à jouer au niveau de l'éducation nutritionnelle, plus particulièrement encore au niveau scolaire et dans l'éducation supérieure, mais en règle générale. Et notre troisième dimension, c'est qu'on représente un lien social dans les entreprises où nous...
Oui, mais là, pardonnez-moi, mais on est un peu dans le marketing. On voit bien que c'est pas forcément l'image qu'on peut avoir d'une restauration collective, même si vous avez fait des progrès immenses. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est la réalité de ce que vous dites?
La réalité de ce que je dis, par exemple, la cuisine. 90% de nos cuisines, je rappelle qu'on a 4 000 sites en France, 35 000 collaborateurs chez Sodexo. La cuisine, 90% de nos cuisines sont équipées de légumeries. Ça veut dire qu'on prend des denrées brutes et on les transforme. Donc déjà, vous voyez l'image un petit peu qu'on a tous dans l'inconscient collectif de la cantine d'il y a 20 ans, ça n'est plus une réalité aujourd'hui. Mm-hmm. Aujourd'hui, on fait de la cuisine. Et aujourd'hui, on faisait de la cuisine, mais la part de préparation culinaire est devenue prépondérante. Elle est majeure dans notre travail de cuisinier. Nous, on se revendique comme étant des cuisiniers. Mmh. Le deuxième aspect, c'est très concret. Le deuxième aspect, c'est l'éducation nutritionnelle.
Ça se traduit comment ?
Ben, toutes les semaines, nous avons des animations nutritionnelles avec les enseignants, auprès des enfants, par exemple. Et nous avons développé beaucoup de formes d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que l'école, c'est l'école du goût aussi. C'est là où on apprend...
Bien sûr, à aimer des légumes, à tout aimer. Ouais.
Et c'est là où on apprend à tout aimer. Donc, on a développé... Par exemple, on travaille avec une start-up, Studitrack, qui nous a composé des chansons. Et les enfants, les petits, apprennent l'éducation nutritionnelle en chantant. Mmh. Vous voyez, on multiplie les formes concrètes qui permettent... aux enfants d'accéder à la connaissance des aliments qu'ils ingèrent et qui sont bons pour leur santé.
Oui, mais en même temps, attendez, on connaît aussi un peu les chiffres. Vous nourrissez, enfin, il y a 6 millions d'enfants qui sont nourris
en France,
hein, donc c'est énorme, avec une part importante.
Oui, ça fait un milliard de repas.
Voilà, exactement.
C'est énorme.
Un milliard de repas, si vous voulez, pour te dire, il faut de l'éducation nutritionnelle, c'est difficilement compatible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que vous êtes à une telle échelle que ça devient. Enfin, vous faites quand même du business.
En fait, si vous voulez, ça n'est pas incompatible, ça fait vraiment partie prenante. On a 250 diététiciens qui travaillent dans les établissements. On est chez Sodexo, on est le premier employeur de diététiciens au monde, avec 4000 diététiciens. Et donc, ça fait partie prenante de nos contrats, c'est-à-dire de nos obligations et de la façon dont nous réalisons notre prestation de service. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très concret. On travaille également, si vous voulez, en fait, la cuisine et la diététique, ce qui a changé, se parlent. Elles se parlent. Quand on propose des menus végétariens à l'école, eh bien, on a peu de chances qu'ils soient appréciés des enfants si les cuisiniers ne travaillent pas avec les diététiciens. Et tout ça se fait également en impliquant les enfants. C'est-à-dire, on a créé, par exemple, des clubs d'enfants on appelle ça le club des minots, et qui, en fait, goûtent les préparations culinaires et nous donnent leur avis. Et donc, on évalue, si vous voulez, la façon dont on va pouvoir introduire des aliments nouveaux et la façon dont on va pouvoir les préparer. Je vous donne l'exemple du potiron, très rapidement. Le potiron, pour l'apprécier, on va le présenter en cake, on va le présenter en purée, on va le présenter en soupe. Et la façon dont on introduit les aliments nécessite, si vous voulez, de changer un peu notre regard sur des menus qui sont monotones. Voilà, c'est-à-dire, il faut introduire de la créativité culinaire. Et ça, pour le faire et réussir, il faut vraiment l'association d'un cuisinier, de chef de cuisine et de diététicien.
Lorsque vous avez... on disait les goûts sont en train d'évoluer énormément. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça ? Là, je lisais encore, il y a un appel d'association pour dire qu'il y a plus de menus végétariens. En fait, en disant on mange trop de viande dans nos cantines scolaires ou d'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a trop de viande ?
Ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'il faut... suivre les recommandations du PNNS, Plan National Nutrition Santé. Dans le plan, il y a déjà les indications qui permettent d'introduire des plats végétariens. Donc, moi, je pense aujourd'hui que on est face à des changements majeurs de comportement fois de production et à la fois de comportement alimentaire. Mmh. Et c'est toute la société qui a compris, qui est en train de comprendre que nous ne pouvons plus continuer sur ce rythme-là.
Oui, mais la question, c'est est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous allez le transposer, justement, ce
mot ? Nous l'avons déjà transposé. Je vais vous donner des exemples très concrets. Mmh. On travaille, je me permets d'insister sur la qualité des approvisionnements. Oui. Parce que pour faire une bonne cuisine, il faut de la qualité des approvisionnements. Aujourd'hui, chez Sodexo, nous avons des acheteurs, de vrais acheteurs. Nous avons 9 acheteurs qui travaillent dans les les territoires. Nous, vous savez, notre métier, c'est un métier où on est dans les territoires, on est proche, on est proche de nos fournisseurs et on travaille avec eux. À Brest, nous sommes en train d'accompagner une coopérative maraîchère avec la ville et la chambre d'agriculture pour l'accompagner dans sa transformation biologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a pris l'engagement de payer au prix les produits qui sont en transformation, au prix du bio. Voilà comment, des exemples très concrets, comment on fait dans les territoires pour accompagner cette transition. Mais évidemment, je ne vais pas vous dire que Sodexo tout seul va réussir cette transition écologique. Évidemment qu'il faut que chacun accepte finalement de payer le juste prix de cette évolution. Mais je pense que nous sommes face à une très très grande évolution, y compris sur le plan nutritionnel, parce que, si vous voulez, un des fléaux sur le plan nutritionnel, un des fléaux national, c'est la progression du surpoids et de toutes les maladies métaboliques. Oui, et donc, ce sont des sujets très sérieux. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut resacraliser l'alimentation. C'est un investissement.
Mais c'est un coût.
C'est un coût. C'est le juste coût. Je pense qu'il faut trouver le juste coût, voyez. Et je pense que tout le monde a compris. La société civile est en plein mouvement. Je pense qu'il y a vraiment les jeunes générations sont très claires. Hein,
peut-être la dernière question là-dessus, c'est est-ce que les contraintes religieuses, comment est-ce que vous, Sodexo, vous les prenez en compte ? On connaît la loi, mais comment vous les prenez en compte ?
En fait, si vous voulez, on a par exemple développé des applications qui permettent aux familles de prendre connaissance des menus, d'interagir avec nous, c'est-à-dire de poser toutes les questions concernant les menus et la façon dont ils sont élaborés. Et donc, à travers ces applications, ils peuvent également payer payer le restaurant. À travers ces applications, ils ont connaissance de la façon dont on décline nos menus et de la façon dont, par exemple, ils vont pouvoir avoir par anticipation la liste des allergènes, ils vont pouvoir voir quel type de menu on propose avec la collectivité.
Il y a un menu, il y a deux menus. Il y a un menu, il y a deux menus chez vous.
Ça dépend du contrat, mais en fait, l'évolution, elle va vers les self-services. De plus en plus, évidemment, on va proposer des salades bar. Par exemple, on propose aux adolescents, on va proposer des salades bar. Mais on a souvent un choix. Avec les tout-petits, c'est différent. Hein. C'est-à-dire, en fait, on s'adapte à l'âge des enfants. Et donc, les prestations évoluent avec nos clients. Ça évolue en fonction des attentes.
Vous avez combien de cantines scolaires en France ?
Écoutez, nous avons 4000 sites. Nous avons environ 1200 sites.
Oui, d'accord. Non, mais c'était une question. Et d'entreprise ?
Et d'entreprise, je dirais 2000.
Maintenant, il y a l'autre grande question. Donc, finalement, il y a qu'est-ce qu'on a dans notre assiette et comment on peut l'améliorer et toutes les questions de surpoids, de mauvaises habitudes alimentaires. Il y a la question aussi maintenant. Vous êtes soumis à des feux croisés du gaspillage. Comment lutter contre le gaspillage ? Comment est-ce que, je sais pas, les mesures que vous avez prises puisque vous êtes à la tête de Sodexo France, je le rappelle.
Alors, je pense que, alors, le gaspillage, ce que je veux dire, c'est que c'est une responsabilité très importante pour nous d'arriver à diminuer les gaspillages. Donc, on a pris des engagements très forts de diminuer de 50% les gaspillages. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que les gaspillages alimentaires s'évaluent tout au long de la chaîne alimentaire, de la fourchette à l'assiette. Et on estime que...
Vous jetez combien à peu près chaque jour ?
Sur toute la chaîne, on estime qu'on a 30 à 40% de pertes. Donc, en amont et en aval. Ouais. Et donc, si vous voulez, le problème du gaspillage alimentaire, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, sur lequel on a pris des engagements extrêmement forts. On est en train de déployer un programme qui permet de mesurer, parce qu'à travers la mesure, on prend conscience du gaspillage. Sinon, on ne se rend pas compte. Mmh. Concrètement, ça fait des années qu'on a mis en place des tri sélectifs. Ça fait des années qu'on sensibilise les enfants au pain, de ne pas jeter le pain, par exemple. Donc, on a mis des gâchimètres dans les établissements scolaires. Ce que nous faisons aussi avec nos clients, parce qu'il faut voir que nous sommes toujours, nous, chez nos clients, dans des partenariats très forts avec nos clients, et les projets, on les monte ensemble. Ce que nous faisons avec certains de nos clients, c'est qu'on récupère les restes et on en fait du compost ou du biocarburant. Vous voyez, en fait, la chaîne alimentaire produit trop de gaspillage, mais nous, on va travailler à surtout...
Mais est-ce que c'est quand même...
Ne pas les produire, ces gaspillages.
D'accord, mais Anna Doriani, est-ce que chez 30 à 40%, c'est vrai que c'est un chiffre assez, assez fort, est-ce que vous avez fixé des objectifs à vos équipes?
Oui, bien sûr.
De combien?
Bien sûr, 50% des restes, c'est-à-dire ceux qui arrivent dans la poubelle. Voyez.
Non, je comprends. Pardon, j'ai mal formulé ma question. Ma question était de dire, vous avez fixé à vos équipes.
Nos équipes, c'est la réduction de 50% des gaspillages.
Ah voilà, c'est voilà, ça. C'est d'accord. Ça. Ok, non, c'est parce que c'est pas d'aller jusqu'à 50%, alors que vous êtes déjà de 30 à 40%. Non. Donc c'est diminuer de moitié,
c'est
en
ça.
Fait.
C'est
le,
ça.
Ouais. Et ça, à quel horizon? À quel horizon?
C'est à l'horizon. C'est en cours. C'est en cours de déploiement. Ça fait des années qu'on travaille sur le gaspillage. On travaille aussi avec des associations dans les cantines scolaires, évidemment les invendus, si vous voulez, qui sont pas vraiment des, c'est pas des restes. On les récupère et on a des associations qui viennent les récupérer. On pratique le don alimentaire, mais je dirais vraiment là où on est en train d'évoluer avec nos clients, c'est ensemble de comprendre. Comment éviter qu'il y ait des gaspillages? Donc, on travaille plus en amont.
Est-ce qu'il y a trop de normes, un peu comme partout en France? Quelqu'un m'expliquait, la cantine, on ne peut pas se donner des œufs ou que des jaunes d'œufs, on ne peut pas donner de blancs d'œufs. Bon, on ne sait pas très bien pourquoi, mais enfin, il y a une quantité de normes, alors dites sanitaires, mais enfin, qui ont bon dos, entre guillemets.
En fait, je ne dirais pas qu'il y a trop de normes, parce que certaines normes nous ont fait beaucoup progresser. Je pense notamment à l'hygiène alimentaire, la sécurité au travail.
Oui, ce point de vue-là, c'est très bien. Mais...
De ce point de vue-là, c'est très bien. La traçabilité, c'est essentiel dans notre métier. Ce que je dirais, c'est qu'il y a des choses que nous pouvons changer et re-réfléchir, notamment dans la restauration hospitalière. Et ça me paraît être des sujets très importants, parce que l'alimentation, c'est un soin. Et donc, il y a plusieurs critères qui interviennent. Il y a la façon dont on pense les menus. Il y a les grammages. Est-ce que les grammages sont vraiment bien adaptés? Il y a surtout aussi de mettre la personne, par exemple le patient, en situation de mieux choisir et peut-être de choisir aussi les horaires... ses horaires de repas. Et on a constaté, à partir d'expérimentations qui ont été faites avec certains de nos clients en secteur hospitalier, qu'on arrivait quasiment à avoir zéro gaspillage.
D'accord.
Oui, c'est possible.
Donc, c'est possible. Oui, c'est faut-il possible. Croire la mairie de Paris lorsqu'elle dit que 50% des produits servis dans les cantines sont bio? Ça paraît gigantesque.
On vient de renouveler notre contrat, par exemple, avec la ville de Marseille, et on a 50% l'engagement que nous avons, qui est en place, qui est respecté avec la ville de Marseille. Donc, c'est 50% de bio.
Donc, c'est possible. Alors, c'est possible. Maintenant, il y a eu, effectivement, là, ce momentum très... écologique, environnemental, avec la veille du G7, 34 entreprises qui ont signé cette fameuse charte Business for Inclusive Growth. Vous avez signé. Qu'est-ce que ça change au-delà, pardonnez-moi, mais au-delà de la com, du choix, qu'est-ce que ça change?
En fait, ce que ça change, si vous voulez, c'est que nous sommes face à des enjeux sociétaux, écologiques, environnementaux
majeurs.
Majeur. Donc, on ne peut plus avoir les mêmes recettes que dans le passé. Ça ne marche plus. Donc, ça veut dire qu'il faut co-construire. Il faut co-construire dans le dialogue social. Il faut co-construire avec les pouvoirs publics et aussi avec des initiatives d'entreprise. Et il faut co-construire, c'est ça que ça change, à la maille locale. Parce que la réalité du développement économique se fait à la maille locale. Et si vous voulez, Sodexo est une entreprise qui est devenue internationale parce qu'elle est avant tout
le chiffre d'affaires de la France locale. Représente combien sur le chiffre d'affaires de
20,4 milliards, oui. 460 000 collaborateurs dans le monde, 70 pays. Et toujours, toujours cette dynamique de réfléchir avec les parties prenantes. Les salariés, les actionnaires, les clients et les fournisseurs.
Ouais, et la France, pardon, la France représente combien
dans... Ça représente entre 13 et 15% en fonction du groupe. Oui. C'est un pays très important, puisque c'est un pays...
historiquement, la famille Belon. Oui.
Voilà, 1966. Et en fait, c'est une entreprise qui s'est dotée d'une mission depuis le début.
Est-ce que ça se traduit, vous allez traduire ça, on reste sur Sodexo France, ça va se traduire comment, le fait d'avoir signé cette charte ?
Ça se traduit, par exemple, nous, dans cette charte, nous prenons des engagements en termes d'insertion sociale. Nous avons, avec le conseil départemental des Yvelines, nous avons créé une CEMOP et nous opérons dans les collèges, nous opérons le métier de service de la restauration, mais également d'autres métiers de service. Les engagements que nous avons pris ensemble, c'est des engagements d'inclusion. Nous venons de recruter 350 collaborateurs qui sont bénéficiaires du RSA. Mmh. Et donc ça c'est une de nos missions très concrètes, c'est d'élaborer un projet avec nos clients et ce projet doit permettre de créer les conditions d'équipe inclusive. Donc voilà très concrètement ce qu'on vient de réaliser tout récemment.
Autre indicateur aussi qui est un peu dans la même mouvance, c'est dimanche soir, il fallait publier son index des qualités professionnelles entre les hommes et les femmes. Vous l'avez publié, il est de combien ? C'était sur 100 points.
On l'a publié et je crois que nous avions été cités parmi les entreprises les plus vertueuses en mars. Donc oui, nous avons chez Sodexo pris le sujet de l'inclusion et de la mixité homme-femme très au sérieux il y a maintenant plus de 20 ans et on a de très bons résultats puisque on a doublé voire triplé la part des femmes dans le management. Et je voudrais juste insister sur un point, c'est que bien sûr que c'est un sujet absolument majeur, mais il faut être attentif aussi à donner aux femmes la possibilité d'aller vers des postes opérationnels parce que ce sont ceux qui sont le plus difficiles à obtenir et ceci tout au long du niveau des différents niveaux de l'entreprise, pas simplement qu'au niveau des comités de direction, aussi au niveau du terrain. Et c'est ce que nous avons réussi à faire, je pense, chez Sodexo, j'en suis sûre, et nous avons réalisé plusieurs études qui démontrent qu'il y a un rapport direct entre la mixité des équipes et les performances économiques et non économiques.
On a vu ça. Vous pensez que votre salaire est équivalent à celui qu'aurait eu un homme s'il avait occupé votre poste ?
En tout cas, l'indice montre que chez Sodexo, on a réduit à sa plus simple expression ces écarts. Mais il y a peut-être encore du travail à faire sur la cause.
Et vous allez regarder ça en sortant d'ici. Merci beaucoup, Anna Notariani, d'avoir été avec nous. Donc, la patronne de Sodexo pour la France avec tous ses engagements. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve demain matin à 8h15. C'est Eric Trappier, le patron de Dassault, qui sera avec nous. Puis sinon, bien sûr, on se retrouve dans leur H, 12h-13h. Bonne journée.